Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une demande d'interview qu'on m'a fait pour le blog Osez Réseau, hein, une agence web. Et en fait, ils m'ont interviewé dans le cadre de la sortie de mon livre, Le Growth Hacking. Et ils m'ont posé quelques questions. Et donc, je vais vous les lire et comme ça, en fait, vous pourrez directement les avoir. Alors, d'abord, ils me demandent, pourriez-vous vous présenter et votre parcours, en fait. Bon, si vous suivez le blog régulièrement, vous savez que ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine du web marketing. J'ai débuté dans les années 2000 en tant que product manager dans le domaine des logiciels. J'avais fait une petite excursion très rapide pendant quelques mois dans le domaine des jeux vidéo. Et ensuite, je me suis orienté dans un domaine beaucoup plus rentable qui est celui des logiciels B2B. Et ensuite, j'ai monté le blog Conseil Marketing en 2006. Et maintenant, ça fait 11 ans que je tiens le blog. J'ai édité la première formation au blogging en 2009 qui s'appelle Bloguer comme un pro, qui est d'ailleurs toujours en vente et que j'actualise à peu près tous les ans avec de nouvelles vidéos. Il y a toujours en fait un peu de contenu. Actuellement, je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire une personne qui cumule en fait plusieurs emplois. En effet, je suis toujours product manager après avoir travaillé chez différents éditeurs de logiciels. Là, je suis chez Eloquent, qui est un éditeur de solutions d'enquête de satisfaction, de centre d'appel, de chat, de parcours client et d'analyse sémantique. Et donc ça c'est la journée. Le soir en fait, donc je suis toujours sur conseilmarketing.com, qui est l'un des 10 blogs marketing en France, avec plus de 10 000 visiteurs par jour, à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Et donc j'ai d'ailleurs fait un petit bilan. Hein, si vous êtes intéressé, vous tapez ce que j'ai à vous dire après 11 ans à bloguer et 4 700 articles et 25 millions de visiteurs. Voilà. Alors la première question qui est vraiment intéressante, c'est qu'est-ce que le growth hacking? Alors moi, à chaque fois, je dis le growth hacking, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est pas une formule magique, c'est pas quelque chose que on vient tout de suite de sortir. Pour moi, en fait, le growth hacking, c'est une philosophie qui date depuis un petit moment. On l'a juste formalisé parce qu'en fait, il y a des startups qui ont commencé à utiliser ce mot-clé-là, ce terme-là, pour dire ok, on va pas faire comme d'habitude, on va un petit peu casser les codes. Pour moi, le terme growth hacking, c'est juste mettre un mot sur moi ce que j'ai appelé pendant très très longtemps, c'est d'efficacité maximale. L'efficacité maximale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mettre en place des stratégies qui visent en fait à avoir une croissance forte et rapide en détournant le système pour avoir un résultat maximum avec un minimum de moyens. Voilà. Alors, après, ce qui est super important, c'est de distinguer deux mots dans le growth hacking. Parce qu'en fait, beaucoup de gens dans growth hacking retiennent qu'un seul mot. Le mot hacking. Hacking, c'est-à-dire détourner un système, ce qui n'est pas forcément toute la philosophie de growth hacking, c'est même en prendre que la moitié et pas forcément la meilleure moitié. Alors, le hacking, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement détourner un système, flirter avec les limites du système, utiliser des méthodes ingénieuses, essayer d'automatiser, etc., etc. Donc, moi j'ai tendance en fait à donner un exemple simple. Le hacking, qu'est-ce que c'est? Et ça vous parlera vraiment à tout le monde, c'est Dick Fosbury, qui est l'inventeur du Fosbury Flop, hein, c'est-à-dire quand on saute en fait en hauteur. Si vous tapez Fosbury Flop, voilà, c'est un gars qui était en fait voilà, qui a lancé en fait une technique pour sauter en hauteur. Alors le Fosbury Flop, l'origine c'est en 63. Et donc en fait c'est le gars en fait qui a appris où il fallait sauter en fait par derrière, en fait, ce qui est contre-intuitif. Il a vraiment fait une révolution dans son sport en démontrant qu'il était beaucoup plus intéressant de sauter comme ça en arrière que d'utiliser les méthodes traditionnelles. Donc ça c'est vraiment un exemple simple, hein. C'est quelqu'un qui a remis complètement en question. Autrement, un autre exemple, si dans le domaine sportif, si vous connaissez Greg LeMond, voilà, et il y a le vélo, son fameux vélo, hop, vélo marathonien, vélo pas électrique, mais vélo marathonien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Greg LeMond, il avait trouvé une technique qui était vraiment intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, il était, je crois, avec Laurent Fignon à un moment donné, et donc en fait, ils étaient au Tour de France, en train comment dire, d'être coude à coude. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il a sorti un vélo spécial pour tout ce qui était j'ai consulté là, une page là, pour tout ce qui était vélo de vitesse. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, en fait, il a utilisé comme ça un vélo qui lui a permis de remporter le Tour de France. Et vraiment, c'était un truc un peu fou, quoi. À l'époque, personne n'avait osé utiliser un vélo comme ça. Et puis, en fait, finalement, le vélo spécial, le casque spécial, etc., etc., pour l'aérodynamisme, lui a permis de gagner. Donc, en fait, voilà, Dick Fosbury, Greg LeMond, c'est des gens, en fait, qui ont osé remettre en cause le système. C'est des gens qui ont aussi osé utiliser des nouvelles techniques. Et en fait, quelque part, c'était des gros hackers avant l'heure. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, en fait, d'une manière globale. Dans une entreprise, c'est tout simplement aussi détourner un peu le système. C'est, par exemple, utiliser des outils pour ajouter en masse des contacts clés sur LinkedIn. C'est faire du newsjacking pour détourner des actualités. Moi, je le fais de temps en temps lorsqu'il y a des trucs comme Koh-Lanta, comme il y a des trucs genre l'amour est dans le pré. Mais à chaque fois, je récupère quelques centaines de visites sur mon site. Bon, voilà, c'est pas forcément hyper ciblé. Mais en tout cas, ça permet de récupérer des visiteurs. Encore une fois, d'ailleurs, et je viendrai. Ce sera ma liaison d'ailleurs pour la deuxième partie dans Growth Hacking, il y a Growth. C'est-à-dire que oui, on peut mettre en place ces petites techniques là pour attirer des visiteurs, mais si ce n'est pas des visiteurs qui convertissent, des visiteurs qui achètent, ça ne sert à rien. Et c'est là en fait justement que vient le deuxième mot, growth, c'est-à-dire qu'on met en place une structure, un cadre pour assurer la croissance de son entreprise avec ce qu'on appellera le framework AR. Voilà. Alors, souvent, en fait, le problème, moi, que je vois, c'est que les startups, les web marketeurs, etc., les créateurs d'entreprises retiennent surtout le mot hacking dans growth hacking. Et pour eux, en fait, ben voilà, moi, je fais du growth hacking, et donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Ben, je spam. Je récupère des emails, j'ajoute en masse des gens, je spam les forums, etc., etc. Or, en fait, ben, c'est pas ça. C'est pas ça uniquement, alors c'est un peu de ça, mais c'est pas ça. C'est se dire voilà, j'envoie des emails en masse. Non, le growth hacking, ça vous autorise pas à détourner la loi, à être hors la loi, à faire des choses qui sont illégales. C'est pas dire ouais, mais je fais du growth hacking ou j'essaye de faire de l'attraction pour mon entreprise. Non, c'est pas ça. Ça, c'est du vol. Encore une fois, récupérer des données depuis un site internet, une base de données, envoyer en masse des emails, c'est pas du growth hacking, c'est du vol pur et simple. Après, il y a pas mal de gens qui se disent pas vu, pas pris, mais pour moi, ce n'est pas du tout du growth hacking. Voilà. Alors justement, la partie growth, c'est ce qu'on voit le moins souvent, c'est que les gens en fait oublient cette partie growth, et en fait c'est tout simplement l'adaptation des méthodes agiles de l'informatique, les méthodes Scrum, pour mettre en place en fait un tunnel et un cadre pour ses actions marketing. C'est-à-dire qu'on va modéliser son tunnel des ventes. Modéliser, c'est-à-dire qu'on a une phase où on va faire de l'acquisition, on active les gens, on fait de la rétention, on essaie d'avoir de la recommandation du parrainage, et puis on essaie d'augmenter ses revenus. Donc voilà, on a un tunnel en fait, hein, un tunnel de vente classique, et on va essayer d'optimiser là où il y a le moins de performance possible en sélectionnant des idées les plus intéressantes, les plus performantes, les plus rentables, et qui donneront un impact à court et moyen terme beaucoup plus important. Donc cette méthodologie, le tunnel AR, on dit voilà où en fait on est moins performant et où on va améliorer ses performances, c'est vraiment une base qui permet très rapidement d'avoir des résultats. Ça permet des startups, des PME d'optimiser leur budget qui sont souvent très très petit pour aller à l'essentiel sans se disperser. Voilà. Alors, la troisième question, c'est pourriez-vous citer des exemples d'entreprises ayant intégré avec succès des stratégies de growth hacking? En fait, il y en a de très très nombreux. Alors, par exemple, moi je cite toujours le classique, hein, mais bon, à force de citer celui-là, on en aura un petit peu marre. C'est Airbnb, hein, on sait toujours Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, en fait, ben, c'est Airbnb, c'est un airbed, hein, c'est-à-dire un matelas gonflable. Et puis, c'est bread and breakfast, c'est-à-dire le petit déjeuner. Donc, en fait, tu proposes un matelas gonflable et un petit déj dans ton appart. Voilà. Alors après, la légende dit oui, ça a bien décollé le jour où ils ont fait venir des photographes pour prendre des super photos des apparts. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, hein, et c'est vrai que ça aide aussi. Mais ce qui a vraiment fait décoller également, c'est le jour où ils ont commencé à pomper les contacts en fait de Craigslist. Alors Craigslist, qu'est-ce que c'était? Craigslist, en fait, c'était un site de petites annonces, c'était l'équivalent du Bon Coin en fait aux États-Unis. Et donc tous les gens qui mettaient une annonce dans la catégorie location entre particuliers, ben, ils les contactaient grâce à un petit outil pour leur dire Hey, n'oublie pas aussi de passer ton annonce sur Airbnb. Et donc forcément, les gens se mettaient sur Airbnb. Comme le site était plus joli, plus ergonomique, qu'il avait plus de trafic, etc., etc., et ben, tout simplement, ça a eu un succès. Encore une fois, il détournait du trafic. Si vous n'avez pas un bon produit, une bonne offre qui est supérieure à la concurrence, ça ne servira à rien. Là, ce qui a fait le succès, c'est que donc ils ont réussi à détourner du trafic, mais leur offre était bien. Voilà. Donc les entreprises qui ont souvent retenu du hacking sont souvent les plus connues. C'est ça en fait qui remet un petit peu en lumière parce qu'une croissance, une optimisation de la croissance, c'est un petit peu simple. C'est on peut dire aussi Dropbox, hein, Dropbox qui suivait ses métriques de conversion, etc. La plupart des entreprises comme ça suivent les conversions, le tunnel de vente. Néanmoins, c'est vrai que les exemples les plus intéressants, les exemples les plus drôles et celles qui ont plus d'impact, c'est ceux qui ont réussi comme ça à faire de la croissance sur la peau d'un leader. En fait, c'est souvent ce qui se passe, hein. On a des leaders sur un marché qui sont un petit peu endormis et crac, on va aller leur prendre leurs clients parce qu'ils font 80% du marché et leurs produits sont pas optimaux, ils sont pas encore adaptés et il y a des choses qui évoluent, etc. Alors j'essaie toujours à chaque fois de donner des exemples un peu plus français, un peu plus proches de nous, qui vous parlent. Alors en fait, souvent j'en donne trois, là je vous en donnais trois d'ailleurs, c'est Quel Job, le site d'emploi, qui en fait était un crawler hein, dans l'emploi, qui était un job board, c'est-à-dire qu'en fait ils ont récupéré toutes les offres d'emploi qu'il y avait à la NPE, qu'il y avait sur les sites d'emploi, pour les mettre sur son site à lui. Et en fait, ils ont utilisé cette technique-là de manière très intelligente, parce qu'il y avait plein de sites d'emploi qui étaient dispersés, mais il n'y avait personne qui rassemblait tout, tout, tout. Certes, il y avait la NPE qui était censée le faire, mais le Pôle emploi ne le faisait pas. Et en fait, au début, ils ont commencé comme ça à récupérer toutes les annonces et à les centraliser, et ce qui était illégal, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, en fait. Mais ils ont pris de risques et hop, ils l'ont fait. C'est un petit peu ce que dit Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Il faut demander pardon, pas l'autorisation. Voilà. Un autre exemple que j'aime bien citer aussi, qui est franco-français, qui est assez emblématique, c'est Xavier Niel, qui a bâti le début de sa fortune hein, dans le domaine truc un petit peu rose. Donc en fait, il a commencé en fait dans le Minitel rose, en tout simplement en piratant les clients du 3615 ULA vers son propre service de Minitel rose grâce à son logiciel de Turbophone. En fait, le Turbophone permettait de composer un numéro, discuter avec les gens en disant ouais, rejoins-moi sur tel numéro de 3615. Et les gens qui étaient sur 3615 ULA étaient détournés vers les autres 3615 de Xavier Niel. Alors si c'est pas que ça qui a fait sa fortune, hein, mais on peut voir que c'est un petit peu ça. Voilà. Ludovic Barthélémy aussi de Marketing Hack qui a fait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires tout simplement en récupérant les coordonnées sur Internet de professionnels, petites entreprises comme des coiffeurs, des restaurants, etc., en leur vendant une formation référencement local. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller contacter toutes les personnes, il leur a récupéré des emails contact at coiffeur machin, contact at restaurant bidule qui était autorisé, et il leur a dit, ben voilà, vous êtes sur Internet, moi je vous offre cette formation-là, etc. Et en ayant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'adresses email, il a réussi à faire un chiffre d'affaires assez intéressant. Voilà. Alors, la quatrième question qu'on me pose, c'est quels sont les outils indispensables à la pratique du growth hacking? En fait, bah, j'ai écrit un article complet là-dessus, hein. Il y a 50 outils pour faire du growth hacking. C'est vous tapez sur mon site Arsenal du growth hacker débutant, hein, et vous verrez bah, pas mal d'outils que j'aime bien. Moi, j'aime bien SEMrush qui permet de lister les mots-clés les plus tapés, les mots-clés de ses concurrents, etc. J'aime bien LinkedIn Helper qui est un petit outil qui permet d'ajouter automatiquement des personnes sur LinkedIn via une requête. J'aime bien Cloudflare qui permet d'avoir un petit message de bienvenue automatique sur Twitter, etc., etc. Alors, le problème, c'est que souvent ces outils-là se concentrent sur la partie hacking, comme je disais tout à l'heure, la partie hacking qui est pas forcément la plus intéressante. C'est pour ça que je dis souvent que la modélisation du tunnel des ventes AR est aussi importante que ces outils, car elle permet de donner vraiment un cadre pour la croissance. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin qui s'appelle le Growth Hacking. C'est une méthode en 8 semaines pour maîtriser justement les bases de la méthode avec ce fameux tunnel, cette optimisation-là. Et en plus, j'ai rajouté 5 heures de vidéo pour être sûr d'avoir un exemple et bien comprendre que c'est pas que pirater, il y a vraiment une structure et une méthode. Voilà. Alors après, il y a toujours un débat, les gens qui me disent, bah voilà, un gros hacker doit savoir coder, s'est développé, etc., etc. Alors je dirais oui, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pratique, parce qu'en fait, comme ça, on peut automatiser un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ben, il faut avoir les compétences, il faut avoir le temps, et parfois, au bout de moi, ça m'est arrivé de travailler pendant 2 heures, 3 heures sur un script, et à la fin, ça marchait à moitié, c'était pas génial. Donc moi, je préfère souvent utiliser un outil ou demander à quelqu'un de me le faire pour quelques dizaines d'euros, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, quels sont les différents concept de hackers. En fait, bon, bien sûr, je me contenterai du hacker marketing, hein, hacker en entreprise. Je parlerai pas du hacker informatique. Pour moi, comme j'ai dit précédemment, il y a trois profils, hein. Il y a ce que j'appelle moi le gross hacker white hat. C'est ceux qui innovent de manière intelligente, ils trouvent une méthode, une faille, et tac, ils basent leur réflexion sur un petit peu la rationalité. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est par exemple, moi j'irais Dick Fosbury qui a fait son fameux Fosbury Flop. Hein. C'est lui qui a remis en cause la méthode et il l'a faite. Après, bon, sa carrière n'a pas duré des années et des années, mais c'est lui qui a révolutionné le secteur. Après, moi, je parlerai des gens qui sont un peu gray hat, hein, c'est les gens qui sont un peu gris, qui flirtent avec l'égalité tout en restant du bon côté de la loi. C'est mon cas. Moi, je reste dans la légalité, mais par contre, j'utilise des outils qui me permettent de gagner du temps. Voilà, c'est ça qui est important. C'est par exemple le cas de LinkedIn Helper, comme je le disais. Après, il y a les gens qui sont black hat. C'est les gens qui exploitent des techniques illégales dans un esprit pas vu, pas pris. Bah, de toute façon, tant qu'on ne me voit pas, je vais réussir. C'est vraiment tous ceux qui font du spam par email et tout ça, hein, l'aspiration d'email. Tout simplement parce qu'ils se disent non, mais je ne serai jamais pris parce que la CNIL en fait a très peu de pouvoir et a très peu de chances de les poursuivre. Et donc, ils disent de toute façon, j'ai quasiment aucune chance. Dans le pire des cas, et la personne va cliquer sur le bouton spam et c'est tout. Et puis voilà. Ils s'en foutent en fait sur les conséquences à long terme et sur leur e-réputation. C'est par exemple le cas de Xavier Niel avec son turbophone. Hein. Il s'était vraiment détourné le système, détourné les conditions générales de vente et hop, il l'a fait. Alors il a eu un procès d'ailleurs qu'il a perdu, mais c'était trop tard parce que le 36 Casula avait déjà fait faillite entre-temps, il avait déjà gagné la guerre, quoi. Alors, la dernière question, c'est tout simplement quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lorsqu'on met en place du growth hacking? Je pense que l'erreur, c'est vraiment de se dire que c'est bourriner, c'est récupérer des emails, c'est automatiser toutes les actions, c'est faux. Et c'est pas la bonne solution parce que si on automatise trop, qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, on va avoir une communication qui sera pas humaine, pas chaleureuse, etc., etc. En plus, en bourrinant, en envoyant des emails, c'est pas forcément la bonne solution parce qu'en fait, on va un petit peu se griller. Une mauvaise e-réputation se fait très rapidement et après c'est très compliqué de remonter. Puis après, avec la nouvelle législation GDPR qui va arriver bientôt, hein, on va avoir une protection beaucoup plus importante de la vie privée et une bonne partie des pratiques limites qui sont autorisées maintenant vont être clairement indiquées comme illégales, ce qui, j'espère, permettra de réduire les abus. Alors pourquoi j'ai cette position-là? Parce que je sais très bien que la surexploitation d'un outil finit par le casser. Si vous êtes un peu ancien dans le domaine de l'informatique, vous vous souviendrez tous en fait de la guerre Amiga Atari, qui étaient des super ordinateurs, et ils ont fini par faire faillite. Et pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde piratait. Tout le monde piratait les jeux, et finalement il n'y avait plus de rentabilité, et les consoles et tout ça sont venus sur le marché parce que après c'était beaucoup plus compliqué de pirater les jeux. Donc en fait, c'est le cas également par exemple actuellement sur LinkedIn. LinkedIn pour moi c'est un super outil, je l'ai redécouvert il y a 3 ans. Et c'est vraiment bien, sauf qu'en fait, comme ils n'ont pas de conditions fortes et de restrictions fortes, au contraire de Facebook qui a vraiment un effort important pour éviter les détournements, pour éviter l'automatisation, la récupération des coordonnées, et ben en fait, LinkedIn, eux, laissent tout en open bar, tout simplement parce qu'ils veulent devenir les Facebook du pro. Donc en fait, ils acceptent qu'on puisse récupérer des emails, ils acceptent qu'on fasse du mass mailing, d'extraire les données, etc., etc. Et ça va faire fuir les utilisateurs, donc ils ont intérêt à faire très attention à ça. Alors c'est vrai qu'ils commencent à mettre en place des barrières, par exemple il y a un outil comme Email Hunter qui était très pratique pour récupérer les coordonnées des professionnels de certains contacts, hein. Et ben en fait là, cet outil-là maintenant il n'est plus utilisé comme avant, on peut plus aller comme ça récupérer un email d'une personne qu'on ne connaît pas. Il faudrait pas arriver justement à un système comme Twitter. Pour moi, Twitter est vraiment arrivé dans les limites de ce système-là. Ils ont laissé tout ouvert, tout open bar, tout automatique. Et en fait, maintenant, c'est vraiment une usine à spam, à robots. Et c'est un outil qui, en plus, à la base, est complexe et pas facile à appréhender. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui se détournent un peu. Il faut apporter de l'humain, de la valeur ajoutée. Il faut que ça soit user-friendly. Il faut mettre de l'émotion. Et c'est ça qui va permettre de vendre. Donc, le growth hacking, ça va pas être de bourriner quand même. malade parce que c'est pas ça qui va apporter la solution. C'est apporter de la valeur, avoir un bon produit. Et souvent, en fait, les bonnes bases du growth hacking, c'est d'avoir un bon produit. Puisque si tu as un mauvais produit, ça va être compliqué, même en bourrinant, même en forçant les gens, etc., etc., à commander. Voilà. Donc, ça, c'est l'interview donc que j'ai écrite pour Oser Réseau. Si vous voulez la retrouver, vous allez sur Oser Réseau, hop, le site internet. Centre de formation web marketing, etc. Donc, oserezo.com, oserezo.com. Et donc, vous retrouverez dans la partie blog interview mon interview. Et vous l'avez aussi, bien sûr, sur mon site internet que je vais mettre où je vais mettre en fait cet enregistrement vidéo et audio ou sur mes podcasts. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi acheter mon livre Le Growth Hacking. C'est 25 euros, enfin 24 euros TTC ou 17 euros en version numérique Kindle sur Amazon ou dunode.com. Avec ça, il y a 5 heures de vidéo que j'offre dedans, donc n'hésitez pas. Et le dernier point, si vous achetez le bouquin, que vous vous taguez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, à ce moment-là, je vous offre 2 mois d'abonnement à ma formation continue sur le web marketing et le growth hacking qui s'appelle la Star Marketing Academy. Et donc, non seulement vous allez acheter le bouquin, vous allez avoir la méthode, vous allez avoir les 5 heures de vidéo, mais en plus, donc je vous offre 2 mois de la Star Marketing Academy qui vaut 50 euros, c'est-à-dire que vous avez dépensé 24 euros et vous allez récupérer en fait 50 euros. Donc voilà, au final, vous gagnez entre guillemets 25 euros en vous abonnant et en achetant, plutôt en achetant le livre, vous avez 2 mois d'abonnement à la Star Marketing Academy qui comprend plus de 40 heures de vidéos et de trucs et astuces. Et tous les mois, pendant 2 mois, en fait, là, si vous êtes abonné, si après vous poursuivez, vous aurez encore plus d'astuces. Mais pendant les 2 mois, vous allez donc accéder à tous les trucs et astuces existants, 40 heures. Plus des nouveaux pendant les 2 mois à venir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.